Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Dominique Vercourt. Dominique Vercourt, je le rappelle, vous avez travaillé pendant 25 ans pour Météo France dans les Hautes-Pyrénées. Donc, c'est à ce titre-là que vous vous êtes intéressé en partie aux avalanches, même si ce n'était pas votre seul point d'intérêt dans le cadre de votre travail. Et puis, aujourd'hui, et depuis une bonne quinzaine d'années, vous êtes membre du CAF, le Club Alpin Français. La montagne, vous la connaissez, vous la pratiquez, vous la fréquentez, qu'elle soit enneigée ou pas d'ailleurs.
Donc, il y a trois sortes d'avalanches qui ne se provoquent pas de la même manière. C'est toujours de la neige, mais pas forcément constituée de la même manière et provoquée de la même façon.
Ils ont dit la même cause et les mêmes conséquences.
Voilà, donc ça c'est très intéressant et important de le comprendre. Maintenant, on va plutôt se tourner vers le comportement, les comportements à adopter. On entend que bien aujourd'hui, il y a quand même des équipements qui permettent de sortir les gens qui sont enfouis dans une avalanche, mais enfin, ce serait quand même mieux si on n'avait pas besoin de les sortir de l'avalanche. D'abord, peut-être un mot sur les bons comportements. Vous êtes au CAF, au Club Alpin. Vous allez en montagne souvent, vous accompagnez des groupes, vous êtes entouré ou en tous les cas au CAF, il y a plein de montagnards avertis. Donc ça veut dire que vous savez et vous êtes en mesure de dire, non, aujourd'hui c'est dangereux, on n'y va pas, on n'emmène pas un groupe. Donc ça, c'est possible de prévoir et d'avoir, d'être raisonnable.
Objectivement, oui. Mais pourquoi on va en montagne? C'est quand même pour... parce qu'on a vraiment plaisir à y aller, quoi. Donc parfois, c'est dur de résister à la tentation. Je le comprends. Et il faut y résister. Moi-même, j'ai parfois du mal à y résister. Mais voilà. Alors, les bons comportements, c'est quoi? C'est déjà de comprendre un peu, de se former, d'essayer de voir ce que c'est. Quand est-ce qu'il peut... Là, j'en ai dit deux mots, mais par exemple, au Club Alpin, là où on est, on informe les gens, on essaie de les former. Tous les ans, on fait des formations en salle pour expliquer plus longuement les avalanches. Donc, par exemple, là, on en parle un peu, mais tous les ans, je fais une formation. J'en ai fait une en décembre et on a passé 3 heures en soirée en salle, rien qu'à parler des avalanches. Donc, voilà. Donc, on creuse le sujet. On informe et puis on espère que les gens sortent de là en ayant retenu certaines choses, qui comprennent un peu l'origine de la... l'origine des transformations de la neige, pourquoi il peut y avoir des risques d'avalanche et donc d'être sensibilisé. Alors, est-ce qu'on peut aller en montagne à chaque fois en évitant tout risque d'avalanche? Je pourrais vous dire oui. Parce que les avalanches de plaques dont je vous ai parlé, statistiquement, on s'est aperçu qu'il fallait une certaine pente. Parce que tout à l'heure, par dérision ou par simplification, on a dit que qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il y ait une avalanche? Il faut de la montagne et puis de la neige. C'est-à-dire qu'il faut une pente et de la neige. Mais si la pente n'est pas suffisante, tu n'auras pas d'avalanche. Et typiquement, si la pente est inférieure à 30 degrés, statistiquement, il n'y a pas d'avalanche de plaques. Donc on peut sillonner la montagne. Si on ne dépasse pas des pentes de 30 degrés, normalement, on ne s'expose pas à une avalanche.
Et il y a quand même de quoi faire dans les Hautes-Pyrénées.
Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une avalanche? Qu'est-ce que c'est une pente de 30 degrés? Bon, il y a des petits trucs avec les bâtons de ski pour s'habituer à estimer la pente. Et en gros, même si ce n'est pas très, très rigoureux, une pente à 30 degrés, c'est jusqu'à une piste rouge. Et les pentes à plus de 30 degrés sont les pistes noires.
D'accord, oui, ça c'est intéressant d'avoir ce repère-là. Oui.
Donc si on va en montagne et qu'on fréquente des pistes modérées qui ne dépassent pas 30 degrés, donc normalement on est à l'abri de... C'est un peu simpliste comme comportement, mais on peut fréquenter la montagne sans s'exposer à des risques d'avalanche. Et donc, on a, au club où je suis, donc je fréquente des anciens. Enfin, quand je dis des anciens, c'est des gens qui ont 80 ans et qui font encore du ski de randonnée. Donc, le ski de randonnée, c'est une activité qu'on peut faire de 7 à plus que 77 ans. Et ces gens-là, j'ai des amis qui ont cet âge-là, 80 ans, ils ont 50 ans de ski de randonnée derrière eux et ils ont quasiment pas connu d'avalanche. Ils ont fréquenté des pentes raisonnables, des bonnaires. Ils n'ont pas connu de risque d'avalanche.
Raisonnable, voilà. On peut être raisonable.
On fréquente des... Et quand la neige est poudreuse, quand la neige est fraîche, des pentes à 30 degrés, des pentes entre 25 et 30 degrés, c'est déjà extrêmement plaisant.
Est-ce que vous, quand vous allez en montagne, quel que soit le... Même si vous... Vous prenez des pentes à moins de 30 degrés. Est-ce que vous êtes quand même équipé, au cas où, avec tout ce qu'il faut pour appeler les secours, pour
toujours
vous manifester? Vous êtes équipé au cas où il y aurait une avalanche? Et c'est un équipement obligatoire pour les personnes qui viennent avec vous dans le cadre d'une randonnée avec le CAF?
Ah oui. Non, quelqu'un qui... D'ailleurs, donc le matériel de base, c'est... Bon, on le répète partout, hein, il n'y a pas qu'au club alpin, hein, c'est universellement reconnu. L'équipement de base pour partir en ski de randonnée et même pour faire du ski hors piste, c'est ce qu'on appelle le DVA. Le DVA, c'est un appareil qui est grand comme un téléphone portable. En fait, c'est un émetteur-récepteur qui permet, qui permet de retrouver un autre. Mmh. Voilà. Donc, on l'a sur soi. Avec ça, on a une pelle. Et puis, avec ça, on a une sonde. Une sonde, c'est quoi? C'est une espèce de tige en aluminium qui fait 2,50 m de long, qui est repliable pour qu'on la mette dans le sac à dos, et qui permet de localiser ensuite physiquement la personne qui peut être sous la neige. Et à chaque fois qu'on fait une sortie, la première chose que l'on fait... Bon, après avoir mis les skis, s'être préparé, avant de commencer à marcher ou à avancer avec les skis, on vérifie que tout le monde a son appareil et que tout le monde a son appareil en émission et que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on le vérifie physiquement que ça marche.
Et ça, les gens comprennent en tous les cas cet équipement. Personne ne dit maintenant...
Ils le comprennent, oui. Et parfois, en début de randonnée, quand on s'aperçoit qu'un appareil ne marche pas et qu'on dit à la personne, ben, écoute, tu vas pas pouvoir venir... C'est plus dur à accepter, mais c'est indispensable.
Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire?
C'est comme la ceinture de sécurité en voiture.
Oui, c'est ça.
Même, si, même un jour, avec des risques faibles, pour aller chercher le pain, on met la ceinture de sécurité. Pour faire des petites randonnées, même des pentes inférieures à 30 degrés, même un jour où le manteau neigeux aurait pu être stable, on met la ceinture de sécurité et on part avec le DVA.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui, pour le coup, partent en rando seules? Pas du tout dans le cadre d'une association, pas du tout dans le cadre d'un groupe organisé, mais j'aime bien marcher, j'aime bien la neige, je suis un montagnard averti, je pars tout seul me promener en montagne et j'ai pas d'équipement et de toute façon je connais la montagne. Il y a quand même des personnes qui se promènent en montagne. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Que l'expérience, alors déjà ce que vous venez de dire, que l'expérience, quelqu'un qui vous dit j'ai de l'expérience.
Je dis ça un peu pour vous provoquer aussi.
Ouais. Non, mais c'est bien, je rebondis là-dessus. Parce que je vous ai cité tout à l'heure les chiffres de moyenne d'accidents. Je vous dis qu'il y avait en moyenne une trentaine de décès par an.
Oui.
Et dans une certaine, il y a 20 ans déjà, en 2006, il y avait eu 57 ou 58 décès. Et là, il y avait eu quand même un retour d'expérience. Et cette année-là, avaient été concernés des skieurs de randonnée, des skieurs hors piste, des gens en raquette, des professionnels. Donc tout le monde avait été concerné. Donc même des gens formés, même des gens qui avaient de l'expérience.
L'expérience ne suffit pas pour prévoir ce que la neige va faire.
Non, parce que... Alors, l'avalanche est un phénomène relativement rare. Donc on peut avoir fréquenté pendant des dizaines d'années la montagne sans avoir été confronté aux avalanches. Donc on ne peut pas dire qu'on s'est constitué une expérience. Ensuite, on a beau être informé, on a beau être sensibilisé, on a beau connaître à fond le phénomène, l'attrait parfois de découvrir quelque chose, l'attrait de profiter d'une neige fraîche alors qu'il n'a pas neigé depuis 3 semaines, qu'on a dû se contenter d'une neige dure, on a du mal à résister, donc on y va, et quand on voit une pente qui fait 35 degrés avec une neige fraîche alors qu'on n'en a pas... Ça fait 2 mois qu'on se tape des neiges dures, on a du mal à y résister. Même les gens avertis, parfois, ont du mal à craquer. Depuis quelques temps, il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est-à-dire, en fait, c'est des comportements aberrants qu'on a suivis, malgré la connaissance, malgré l'expérience qu'on a eue. Et ça, c'est connu dans l'industrie, c'est connu dans l'aéronautique, et ça a un peu diffusé chez nous. C'est-à-dire que, pour quelle raison on a pu avoir des comportements à risque alors qu'on était averti. Alors il y a des multiples raisons.
Une recherche d'une adrénaline ou
une recherche de plaisir, ou le besoin de s'affirmer, ou on veut se faire valoir par rapport aux gens qui sont dans le groupe, on ne veut pas reculer. Il y a un sommet qu'on veut faire depuis des années, il est en face, on sait que c'est un peu dangereux, mais on veut tellement y aller qu'on y va. Donc vous avez dit aller tout seul en montagne. Non, aller tout seul en montagne. Bah, si on a des appareils de recherche d'avalanche, si on est pris dans une avalanche... Il y a des secours en montagne, maintenant avec les téléphones portables, parfois des balises, on peut faire appel aux secours. Et en France, les secours sont très efficaces, ils sont très compétents, ils sont gratuits, et ils viennent. Mais Sous une avalanche, la mort peut être très rapide. C'est-à-dire qu'au bout de... En fait, souvent, les gens meurent par asphyxie. Et l'asphyxie, elle peut intervenir au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Donc même les secours qui interviennent en hélicoptère, s'ils arrivent au bout d'une demi-heure, c'est trop tard. Mmh. Donc en fait, les principaux acteurs des secours en montagne, c'est les gens qui sont avec vous. Et si vous êtes tout seul, il n'y a personne avec vous.
On arrive au terme déjà de cette émission, Dominique Vrécourt. J'ai encore deux questions à vous poser. D'abord, quand Météo France nous parle d'un risque 3 sur 5, quand même, ça veut dire quoi et sur quoi c'est basé concrètement? Enfin, c'est quoi vraiment les signaux pour que Météo France nous dise, là, en milieu de semaine, dans les Hautes-Pyrénées, le risque d'avalanche est évalué à 3 sur 5?
Alors, le risque d'avalanche, il intègre les risques de plusieurs types d'avalanches dont on a parlé.
Oui.
Aussi bien des avalanches qui se produisent tout seuls que des avalanches qui sont déclenchées par des skieurs, des avalanches qui vont concerner les gens qui vont se promener en montagne, des avalanches qui vont concerner des gens qui sont éventuellement dans leur maison ou dans leur voiture, qui n'ont rien demandé. Donc voilà. Donc en fait, ce chiffre, cette échelle de risque d'avalanche, elle doit couvrir tous ces types de risques et tous ces types de personnes. Elle va que de 1 à 5, c'est une échelle européenne, hein. Elle a été faite en relation avec tous les pays concernés, ça va de l'Écosse à même la Pologne et la Roumanie. Cette échelle va de 1 à 5. Alors pour la réduire un tout petit peu, le niveau 5 concerne les gens qui n'ont rien demandé, ils ne se sentent pas concernés, donc les gens qui sont en voiture, qui sont dans leur maison. Donc pour les gens qui vont se promener en montagne, vous considérez qu'elle va de 1 à 4. Pour les skieurs, elle va de 1 à 4. Ben, comment on fait? C'est-à-dire que les gens qui font ça suivent le manteau neigeux pendant tout l'hiver. C'est-à-dire ils regardent les épisodes qu'il y a pu y avoir, s'il a fait froid, s'il a fait chaud précédemment, ce qu'on a vu tout à l'heure.
Ouais.
Et ils estiment un peu la capacité qu'aura une nouvelle chute de neige à adhérer à la précédente.
Donc ça veut dire aussi des personnes de l'équipe de Météo France qui se déplacent. Enfin, ils ne font pas que observer depuis leur bureau. Ça nécessite aussi d'aller sur place.
Ouais. Ils se déplacent pour garder un contact, mais ils ont aussi ils ne peuvent pas être partout, ni tout le temps. Donc ils ont des correspondants. Et historiquement, les correspondants, ça a été, et c'est encore beaucoup, les pisteurs des stations de ski. Ils sont concernés par le risque d'avalanche, en premier lieu, pour leur domaine, et pour leur piste aussi, quand même. Mais on est, donc les gens qui font la prévision de risque d'avalanche sont en relation avec les pisteurs des stations de ski. Et de plus en plus, il y a des mesures automatiques. C'est-à-dire que les pisteurs ne sont là que quand la station de ski ouvre. Ils arrêtent quand la station de ski ferme. Donc il y a des stations de mesure automatique qui mesurent la hauteur de neige, etc. Donc différents paramètres. De la simulation aussi par ordinateur. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle des modèles. Donc de la même façon qu'il y a des modèles de simulation de l'atmosphère qui permettent de faire de la prévision météo, il y a des modèles de simulation du manteau neigeux qui permettent de simuler le manteau neigeux sur toutes les Pyrénées, massif par massif, versant par versant, altitude par altitude. Et qui donne une idée théorique de ce que ça peut être, et en mettre en parallèle des observations qui sont faites, des retours de terrain. Ce que les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, et souvent pas en bien, et les comptes rendus des gens qui vont en montagne sont aussi auscultés par les gens qui font de la prévision de risque d'avalanche, un pour vérifier que leurs prévisions sont à peu près conformes à ce qui est rencontré sur le terrain, deux pour avoir des retours d'informations. Voilà, donc on va piocher partout les informations pour avoir des retours de terrain et voir comment ça va évoluer.
Donc s'informer pour faire une meilleure prévention, voilà. Ça, on va retenir ça. Ma dernière question, Dominique Vrécourt, elle est peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez peur parfois en montagne? Est-ce que ça vous arrive ou ça vous est arrivé de vous dire là, j'y vais, mais j'ai un peu peur, je suis pas à l'aise complètement? Est-ce que la montagne vous fait peur?
Si elle me faisait peur, j'irais pas.
Voilà une réponse raisonnable.
Je vais pas pour avoir peur. J'ai pas l'impression de prendre de risques. Après.
Et vous n'en ferez pas prendre aux personnes que vous accompagnez, évidemment.
J'espère que non. Et je fais tout pour. Je pense que non.
Merci beaucoup, Dominique Vrécourt, pour vos explications. C'était passionnant. Voilà, c'était très intéressant de décortiquer un petit peu ce qu'il y a derrière ce mot avalanche. Et on le rappelle, ce qui est important, c'est de s'informer, la prévention, l'équipement. Et puis, si ce n'est pas raisonnable, on n'y va pas.
Voilà, toujours garder en tête qu'est-ce qui peut se passer. Voilà, garder la tête froide.
Merci beaucoup.